Bonjour à toutes et à tous. C'est la rentrée et c'est la reprise de notre émission. Donc je vais commencer par un commentaire un peu triste sur l'actualité récente, notamment sur le Maroc et le séisme qui a endommagé une grande partie de Marrakech et surtout qui a détruit entièrement des villages du Haut Atlas. Et évidemment, c'est quelque chose que l'on connaît, si on ne l'a pas visité, du moins on le connaît par les photos. Donc il s'agit d'un pays voisin. Et les images étaient assez dramatiques, où on voyait la destruction totale de ces villages, et évidemment qui étaient construits en terre, et les gens étaient enterrés vivants, sans espoir de pouvoir respirer, parce que les constructions étaient, comme je vous disais, étaient en terre, et il n'y avait pas ce qui existe quand il y a des planchers solides, comme du béton qui permet d'avoir des poches d'air pour respirer. Donc c'était particulièrement cruel et terrible. Alors, sans vouloir faire de la morale simple, il est intéressant de regarder, avant les vacances, il y avait une émission sur Arte, sur les matériaux et l'emploi des matériaux, et notamment la terre. Alors, bien souvent, ces émissions sont assez caricaturales, et là, celle-là, elle l'était particulièrement, en faisant parler différents acteurs, et notamment des architectes, jeunes architectes, qui ne savent pas faire la part des choses, et même s'il est intéressant d'avoir à la fois des expérimentations sur du nouveau et aussi de se servir du passé et de retrouver des techniques anciennes. Tout ça fait partie de ce métier d'architecte et de cet environnement bâti dont nous parlons ici. Simplement, là, c'était, comme bien souvent aujourd'hui, des visions qui étaient particulièrement caricaturale et on peut dire particulièrement aussi arrogante et prétentieuse. On détient la vérité par rapport au monde qui était à rejeter. Alors, par exemple, le béton est un matériau qui apparaît d'ailleurs comme un matériau nouveau, bien qu'il ne soit pas nouveau, on a pu déjà en parler ici. Mais on a besoin d'avoir Satan d'un côté, chargé de tous les maux, et puis une sorte d'idéal qui va remplir toutes les qualités, à la fois sauver la planète et permettre aux gens de mieux vivre, d'avoir des choses qui sont à portée de main, économiques. Enfin, il est évident que on est dans de la foi, dans de la religion, enfin de la religion, dans de la superstition, et non plus dans un raisonnement rationnel. Donc, il s'agirait de mettre un peu d'ordre dans tout cela. Il est évident que l'esprit du jour est à cela, c'est-à-dire de montrer que tout ce qui est nouveau doit remplacer le passé, et on en a parlé ici, on est sur une inflation, par exemple, réglementaire dans le bâtiment, qui a les conséquences que l'on voit apparaître dans cette rentrée, c'est-à-dire une crise du logement qui est multifactorielle, mais en tout cas, une grande partie de cela est dû à ces surréglementations entre guillemets écologiques, bien souvent totalement inutiles et sans fondement, sans raison, mais qui effectivement impactent les coûts de construction, limitent aussi certains matériaux, et avec, comme je vous disais, une sorte de religion une religion qui oublie toute raison. Alors, L'histoire du matériau Terre, elle est évidemment très ancienne. Simplement, quand on le voit dans un reportage présenté comme ayant traversé les millénaires, comme on l'avait dans cette émission, alors il est évident que tout ça est totalement faux. D'abord, on montre quelques ruines existant en Mésopotamie, où il y a un climat particulièrement sec et qui permet effectivement d'avoir des conservations de choses qui auraient été détruites dans des climats, je ne parle même pas du baroque, mais dans des climats comme les nôtres, avec de l'humidité, de la pluie, immédiatement. Alors, il ne s'agit pas de faire la critique de l'utilisation de la terre qui pourrait être utilisé, mais il faut voir les inconvénients. Les inconvénients, on l'a vu, ça ne tient pas aux moindres secousses sismiques, et parce que évidemment il n'y a pas de rigidité, et de plus c'est très perméable et humide, et l'humidité, un reportage montrait notamment qu'à Marrakech, dans la Médina, de nombreuses maisons sont humides, et que le tremblement de terre qui n'était pas aussi important que sur les plateaux avait eu des conséquences terribles, parce qu'il s'était ajouté à des murs qui étaient déjà fragilisés. Donc cette idée d'une continuité dans l'histoire, et puis j'entendais aussi dire que le béton ne dure pas plus de 60 ans, bon, ce qui est complètement ridicule, bien sûr, et on a des témoignages tout autour de nous. Alors, la même chose s'applique à d'autres matériaux, par exemple le bois, qui est un matériau utilisé depuis la nuit des temps, mais qui a ses propres limites. Alors quand on entend dire que le bois ne brûle pas ou brûle très mal par rapport au métal, on a entendu ça d'une manière régulière, et de dire que aussi, qui traverse les siècles, la preuve serait dans les temples chinois ou japonais. Alors il faut savoir que ils brûlent très souvent, simplement on a les mêmes techniques, on a les mêmes plans, et d'une manière permanente on les entretient, on remplace les pièces, et puis en cas de gros dommage, on sait les repartir à l'identique. Donc ce qui nous paraît aujourd'hui vieux de plusieurs siècles, en fin de compte, souvent n'a que 50 ans. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut noter. Alors il ne s'agit pas de jeter l'opprobre sur ces matériaux dits traditionnels, mais il s'agit d'en voir les limites. Par exemple, l'attaque qui est faite contre les charpentes métalliques par rapport aux charpentes en bois, c'est quelque chose qui est même appris dans les écoles d'architecture. C'est-à-dire le bois brûle très lentement, et surtout quand il est vieux, quasiment il serait impossible de le faire brûler. Alors quand on a vu en direct l'incendie de Notre-Dame, où il y avait une charpente extrêmement ancienne, mais on a vu que ça brûlait comme un feu de paille. Et puis je veux dire que si on a une cheminée et que l'on utilise du bois de récupération, ce qui est assez facile, avec des poutres très anciennes, on voit qu'elles font un excellent feu, et qu'elles brûlent très rapidement. Alors il s'agit simplement de remettre les choses en place et en ordre. Alors il faut savoir effectivement que le bois brûle, et même si on a des chimies aujourd'hui pour le rendre plus difficilement inflammable, tout ça c'est quand même assez limité. Donc les expériences aujourd'hui d'immeubles à hauteur, comme on a construit récemment à Toulouse en bois, personnellement je trouve ça particulièrement risqué, parce que d'abord ce sont des choix innovants, puisque ça ne s'est jamais fait, et je crois que la prudence est de mise en ces domaines. Alors c'est l'attitude que je dénonce, et cette attitude de à la fois qui est très ambiguë, parce que en même temps on ressuscite des matériaux et des modes de construction anciens, ce qui est tout à fait honorable et qui mérite effectivement de l'intérêt, mais en même temps, on jette le bébé avec l'eau du bain sur des progrès que nous avons aujourd'hui, et tout cela me semble assez inquiétant. En tout cas, la conséquence aujourd'hui sur le logement est particulièrement liée à cet ensemble de dérives qui ne sont pas évidemment coordonnées, mais comme je vous disais, surréglementation, le fait que on incite à employer certains matériaux et pas d'autres, la pénurie des matériaux en face. Enfin, il y a tout un ensemble de raisons qui fait que la crise du logement est particulièrement, on peut dire, à nos portes. Et je pense que pour des années, il va y avoir des problèmes très importants pour les classes moyennes et surtout pour ce qu'on appelle les primo-accédants, pour les jeunes, pour trouver des logements. Donc, c'est une situation qui est particulièrement inquiétante. Alors, à ce sujet, en parlant encore d'actualité, il y a un sujet dont on a déjà parlé ici, qui était la démolition des logements dans ce qu'on appelle les grands ensembles ou les quartiers. Enfin, il y a toujours des termes et des euphémismes. Donc, de quoi s'agit-il? C'est-à-dire, il s'agit de la politique de la ville qui estimait qu'il y avait une architecture criminogène et que on devait donc démolir cette architecture pour le remplacer par d'autres bâtiments. Alors, des bâtiments qui ne seraient pas supposés être criminogènes. On ne sait pas très bien pourquoi ils étaient criminogènes, mais on peut dire les problèmes, comme on a eu les dernières émeutes très violentes avant les vacances, les problèmes de société, eh bien, ils sont reportés sur les bâtiments. Alors, d'une manière plus large, on a pu le porter sur le territoire. Cette politique qui est menée en France depuis 30 et 40 ans est essentiellement une politique dite de la ville par euphémisme. En fait, c'est une politique de transformation des territoires et du bâti parce que il s'agit d'incriminer l'urbanisme de l'après-guerre et l'architecture aussi, qui a été faite dans l'après-guerre, mais aussi qui a continué, et notamment par exemple le Mirail, qui n'est pas une construction de l'après-guerre, mais qui est une construction des années 60 et même après. Alors, il est surprenant que, même si cette expression n'est plus aussi employée, de l'avoir surgir dans un article récemment, dans une interview d'un excellent historien qui s'appelle Pierre Vermerin, qui fait une analyse de la situation française, notamment de tous ces problèmes sociaux absolument pertinentes. Et puis, patatras, il termine cet excellent exposé brillantissime en disant: et il faut absolument détruire l'architecture criminogène et son urbanisme. Alors là, c'est les bras m'en tombent parce que tout le problème, tout ce qu'il exposait avant, et c'était des problèmes sociaux, il parlait de l'immigration, il parlait du problème de l'assimilation, de l'intégration, enfin des problèmes qui sont des problèmes de société, et chaque société est confrontée à ses problèmes. Et là, tout d'un coup, on revient à incriminer le territoire et donc on accuse la boîte des problèmes de son contenant. Et là, je dois dire que les bras m'en tombent parce que il semblerait que de décennie en décennie, on ne se serve pas de la leçon. Donc, Je vais reprendre sur ce sujet, on va marquer une petite pause musicale et on va reprendre sur ce sujet qui me paraît particulièrement important.
Quand nous en serons au temps des cerises et gais rossignols et merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous en serons au temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux robes pareilles tombant sous la feuille en gouttes de sang. Il est bien court le temps des cerises pendant le corail qu'on cueille en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi j'aimerais toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune en m'étant offerte, ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerais toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur.
Reprenons donc sur ce sujet de l'architecture criminogène. Alors, l'actualité récente à Toulouse, il y a un débat depuis quelque temps sur la démolition des immeubles de l'architecte Candilis au Mirail. Alors, ces immeubles qui, à l'époque, ont été encensés, et contrairement à ce que l'on entend dire, ils n'ont pas été construits ni pour les pieds noirs, ni pour les migrants. Ils ont été construits pour les classes moyennes, et il est vrai que par des évolutions et des mutations et des changements de population, on n'a plus la population d'origine, mais on a une autre population. Il n'en demeure pas moins que les immeubles sont les mêmes, qu'ils ont été entretenus, autant l'extérieur que les immeubles eux-mêmes par les bailleurs sociaux, et que même si la population a changé, l'architecture est toujours de qualité. Alors, de qualité, c'est-à-dire que les logements sont plus grands que les normes actuelles. Ils ont également eu les transformations nécessaires au niveau des sanitaires, de l'isolation, etc., des progrès. Donc, il ne s'agit pas de rien, il s'agit de près d'un millier de logements qui vont être détruits pour qu'on reconstruise un millier de logements. Alors, Là, c'est là où on se dit que on peut continuer longtemps à déverser des milliards. Et quand je dis des milliards, c'est des centaines de milliards, c'est-à-dire des sommes extravagantes qui ont été dans cette politique de la ville. Alors, tout n'est pas à rejeter. Il y a eu des équipements, il y a eu une amélioration des voiries, des plantations d'arbres, etc. Bon, tout ça est positif, mais la démolition d'immeubles, c'est pour en fait les remplacer par des immeubles qui seront des immeubles pareils, et on ne voit pas très bien pourquoi on accuse ces immeubles-là d'être liés d'une manière que ce soit avec les émeutes récentes ou les émeutes passées à la délinquance et les problèmes de la drogue. Donc il s'agit de problèmes que la société a réglé, et quand je vois que la première ministre s'interroge, et même aussi des édiles locaux dans la municipalité de Toulouse s'interrogent sur ces émeutes. Mais les émeutes, en tout cas, ce n'est pas une question de territoire, c'est une question de personnes. Alors, le but de cette émission n'est pas de traiter des problèmes de la délinquance, de la drogue, de l'immigration illégale, mais en fait, je pense que il faut faire la part des choses et aussi arrêter de financer d'une manière inutile des opérations, et notamment de démolition-reconstruction, qui sont totalement absurdes. Alors, nous sommes devant une pénurie qui est déjà existante et qui ne va que se développer de logements, et on va détruire, ce n'est pas rien, 1 million de logements dans le quartier du Mirail. Bon, tout cela s'ajoutant à une politique de démolition qui dure depuis 30 ans et évidemment qui n'a produit aucun effet. Alors, ce n'est pas le propre de Toulouse, et bien évidemment, il s'agit de la même politique. Et ce qui est vraiment désespérant, c'est qu'à un moment donné, on peut dire, bon, mais ça, cette politique, elle n'est pas bonne, elle n'a servi à rien, puisqu'en fin de compte, la situation s'empire, et donc il faudrait trouver autre chose. Donc, ce n'est pas à moi à trouver la recette idéale, c'est simplement de dire ce qu'il ne faut pas faire. Et dans le cas présent, ce n'est pas la peine de dépenser des milliards qui seraient utilisés bien mieux par ailleurs pour notre pays. Donc, c'est une question qui me paraît centrale et qui n'est pas du tout récente. Je retrouve dans mes papiers des choses que j'avais écrites il y a une trentaine d'années dans mes cours, et qui étaient notamment liées à un cours que je faisais sur l'urbanisme et sur un livre qui s'appelait, un ouvrage qui s'appelait Faire société. Alors, c'est un Jacques Doncelot qui n'est pas un architecte, mais qui était un sociologue, et il avait été envoyé par le ministère de la Culture et la direction de l'architecture, ou qui donne des subventions pour étudier les questions de société liées à l'urbanisme et à l'architecture. Alors là, ce que rappelle ce livre, comme je vous dis, qui a déjà une trentaine d'années, c'était l'historique. L'historique, c'était que la France l'avait envoyé non pas pour apprendre les États-Unis, mais pour donner une leçon. Donc, c'était un échange avec des universités. Et le ministère français, ça ressemble bien à un certain orgueil national, allait donner des leçons de la politique de la ville aux États-Unis, qui étaient supposés totalement incapables pour venir à bout de leurs problèmes. Alors, il ne s'agit pas de dire que tout ce que font les Américains est bien, mais dans le cas présent, effectivement, notre chercheur, sociologue, s'est trouvé, et d'une manière très honnête, a vu que effectivement le pragmatisme américain, et j'en ai déjà parlé, avait empoigné le problème d'une autre manière. Alors, je le rappelle, la manière dont ça a été fait, après des émeutes qui étaient terribles, avec un nombre de morts qui n'avait rien à voir avec ce qui se passe en France, mais enfin, l'Amérique, évidemment, était confrontée à ce problème, qui était un problème très important. Et on peut dire que le passé de l'Amérique avait la population d'origine africaine descendante de l'esclavage est un problème qui est particulièrement sérieux. Et donc, dans le cas présent, on a posé une question qui était essentielle, qui était, est-ce qu'il faut aider les gens, c'est-à-dire le problème social dont je viens de parler, où il faut rénover l'urbanisme, les lieux. Donc ça s'appelait people or place, c'est-à-dire où les gens ou les lieux. Et la manière dont on a fait ça, on a fait des opérations qui étaient en parallèle, une dans laquelle on faisait une grande rénovation urbaine, de logements, d'embellissement des lieux, très efficace. Et en face, enfin du moins d'autres opérations, c'était on ne s'occupait pas du territoire, des maisons et de l'ambiance urbanistique, mais on faisait des politiques d'aide aux personnes, alors qui étaient diverses. Alors, il s'agissait effectivement non seulement des aides sociales, mais des formations professionnelles, des ce qu'on appelait la discrimination positive aussi, de faire rentrer les personnes de ces quartiers dans les universités, enfin il y avait, ou dans les grandes entreprises, des promotions et une politique très active, mais basée uniquement sur le social. Alors rapidement, on a pu comparer les deux opérations, et comme souvent il y avait des fonds privés qui eux demandent des résultats et qu'on ne déverse pas comme en France de l'argent public sans regarder si c'est bénéfique, bah, les donateurs, les grandes entreprises de donateurs, ils veulent avoir des résultats. Et donc, on a bien vu que là où ça marchait, c'était uniquement sur les gens. Ça ne voulait pas dire qu'après, on n'a pas amélioré les quartiers. Mais on a compris que c'était l'essentiel, c'était de faire people, c'est-à-dire sur les gens et pas sur les logements. Et donc, les résultats ont été assez probants. Et on a vu un pays dans lequel existait une ségrégation très importante. Et il y a eu un président noir. Et dans les entreprises, il y a eu une grande mixité et une intégration qui s'est passée en marche forcée et d'une manière très rapide. Bon, nous ne sommes pas dans ce même cas de figure, mais simplement, ce qui est intéressant et je ne sais pas si on peut dire admirable, mais en tout cas à copier, c'est une politique pragmatique où on fait des comparatifs. Et on dit, bon, on a investi tant d'argent dans cet endroit, on fait aussi de l'aide et de l'assimilation. Mais effectivement, comme tout ça est mélangé, on ne sait pas du tout quels sont les effets. Et on ne sait pas non plus quels sont les effets négatifs. Alors tout ça est quand même quelque chose qui est particulièrement inquiétant dans le manque de discernement. Et quand j'entends la première ministre qui va réfléchir sur les raisons de ces émeutes, mais il n'y a pas de raison. Et aussi des élus toulousains qui s'interrogent par rapport à ça. Mais on sait très bien quelle est la cause. La cause, elle est liée à, comme je disais tout à l'heure, trafic de drogue, à des immigrations non régulées et aussi au fait, contrairement à ce qu'on raconte, que les populations ne sont pas stables dans les lieux, mais qu'il y a en permanence des norias. Alors, un côté positif, c'est-à-dire que il y a des gens qui accèdent à d'autres quartiers, à d'autres propriétés, issus notamment d'une immigration assez ancienne. Et aussi, si on avait des statistiques ethniques, on verrait les chiffres de cela. Et ça, j'en suis absolument même personnellement témoin de la mobilité qui existe pour avoir travaillé dans les organismes HLM, avoir eu des responsabilités à ce niveau-là, et de voir qu'effectivement, c'est pas du tout ce qu'on leur raconte, l'assignation à résidence, que les quartiers sont des ghettos, tout ça, évidemment, faux. C'est au contraire le problème, c'est le manque de stabilité de population qui est le problème central. Donc, en fait, quoi que l'on puisse penser, il s'agit donc essentiellement d'un problème qui devrait être pris à bras le corps, qui est un problème de personnes. C'est le problème des gens et ce n'est pas le problème des bâtiments. Alors, il est évident que les architectes aiment bien et un bien penser que leur action produit des effets bénéfiques. Et ça, c'est effectivement, c'est très valorisant parce qu'on se voit comme quelqu'un d'important dans la société. Et donc, l'idée de l'architecture criminogène étant aussi le négatif, évidemment, les architectes ne diront jamais qu'ils ont fait de l'architecture criminogène. Et puis, la plupart des gens qui ont fait la quasi-totalité sont décédés. Donc, c'est facile, effectivement, de reporter la faute sur les générations précédentes et d'affirmer que soi-même on a les solutions pour tout. Et on revient au propos de tout à l'heure sur les nouveaux matériaux et sur la Terre. Effectivement, nous avons les solutions immédiates pour sauver, alors non seulement les populations, mais en plus de ça, on va sauver la planète. Alors, on va rester un peu plus terre à terre et de parler justement de ce que peut changer l'architecture dans la vie des gens. Alors, effectivement, c'est mieux d'habiter dans une belle grande maison ensoleillée en bon état que dans une masure qui prend l'eau. Mais c'est quand même quelque chose d'assez relatif parce que les conditions de vie sociale, l'organisation sociale, ne sont pas liées aux formes urbaines. Les mêmes villes peuvent avoir eu des régimes totalitaires, de cruauté totale, et puis avoir des démocraties. Dans les mêmes bâtiments, on a pu torturer, tuer des gens, mais les bâtiments n'y sont pour rien. Donc il faut arrêter de cette criminalisation, mais aussi de donner que les architectes aussi aient une modestie par rapport à cela. Alors là aussi, on pourrait s'en servir comme conclusion. Quand aujourd'hui, là aussi, il s'agit d'actualité parce que le gouvernement va faire un plan contre les zones tristes et moches des périphéries. Et ça, bon, on reprend le terme de Télérama, je crois, il y a 20 ou 30 ans, qui avait parlé de la France moche. Alors, on découvre effectivement, on découvre qu'il y a des hangars, des commerces qui ne sont pas, qui sont laids et que ces zones sont terribles. Alors, on a déjà parlé de ça ici. Il est évident que la faute à qui? Ben, la faute au manque d'intérêt, au fait que dans les échos d'architecture, on ne parle que des centres-villes, on ne parle jamais de cela. Ça fait partie d'un non-dit. Les urbanistes et les plans d'urbanisme ne font aucune réglementation. Les villes se disputent les bâtiments et on fait évidemment un n'importe quoi. C'est la faute à personne, puisqu'en fait, enfin, c'est la faute à personne. C'est la faute aux gens qui sont chargés de la décision et de la responsabilité, et pas tout d'un coup la France qui devient moche. Elle devient moche parce qu'effectivement, on a bien voulu qu'elle le soit. Donc là, il s'agit aussi que chacun prenne sa responsabilité. Mais que ce soit les politiques, que les professionnels et les architectes et les urbanismes notamment, qui ont complètement fait de l'architecture alimentaire, je reprends un mot qui est repris dans la profession, avec un petit sourire, et puis se réservant, comme on a aujourd'hui les projets d'architecture qui ne sont que des petites dents creuses urbaines, et aussi les politiques qui sont de mettre du granit, des rues piétonnes, des zones à faible émission. En fait, ces centres-villes qui sont qu'une toute petite partie à la fois de la population et à la fois de la surface totale, non seulement de la ville, dans le cas de Toulouse par exemple, regardez le rapport de surface, mais ne parlons pas de l'agglomération tout entière, et on fait un amalgame entre la population totale de l'agglomération, celle du centre-ville, comme si ce centre-ville, c'était la population entière qui y vivait. Alors là, on est à peaufiner des détails, investir des sommes qui me paraissent bien souvent disproportionnées. On met des pendouillards rue Alsace pour créer de l'ombre et faire baisser la température, ou croit-on le faire? Tout ça me paraît ridicule, et il faudrait que les politiques prennent leurs responsabilités, et les professionnels aussi. Bon, c'est la conclusion d'aujourd'hui, et je vous dis à la semaine prochaine. Thank you.